Radio Kapi.
Grâce à Mzati à la présentation.
Au sommaire de ce journal, au moins 3 personnes ont été tuées à la machette ce mardi par les miliciens Mobondo à la ferme Kabiala dans le territoire de Bagata, province d'Ikwilu. Les forces armées de la République démocratique du Congo FRDC affirment aussi avoir neutralisé 5 assaillants et la situation est sous contrôle. 2500 nouveaux magistrats nommés mardi par ordonnance présidentielle. Il s'agit du dernier lot parmi les 5000 magistrats recrutés en 2022. Les syndicats des magistrats se disent satisfaits de ces nominations qui interviennent après de nombreuses pressions et manifestations de ces magistrats. Le Centre Neuropsychopathologie CNPP Unikin a reçu environ 500 personnes les 27 et 28 mars pour des consultations sur leur santé mentale. Parmi ces personnes, 5 ont été retenues pour le traitement. Nous en parlons avec le médecin directeur du CNPP Unikin, le docteur Daniel Okitundu, qui est notre invité. À toutes et à tous, bonjour. Malgré les efforts conjugués par le gouvernement congolais pour mettre fin aux violences des miliciens Mobondo dans l'espace Grand Bandundu, ces derniers continuent d'opérer en tuant des pauvres civils dans ces coins du pays. Dans la matinée de mardi, ces miliciens Mobondo ont massacré et égorgé à la machette au moins 13 personnes à la ferme Kabiala, à près de 7 km du village Mayala dans le territoire du Bagata, au Kwilu. L'armée qui livre l'information dit avoir pris le contrôle de la situation et continue les opérations dans la contrée. Irène Bomaluzolo nous fait le point.
D'après les porte-parole de l'opération Ngemba menée par la 11e région militaire au Grand Bandundu, cette nouvelle incursion de la milice Mobondo a eu lieu mardi dans la ferme Kabiala au secteur de Wamba Fatundu, territoire de Bagata dans la province du Kwilu. Le capitaine Anthony Mwalushai parle du bilan encore provisoire de cette attaque.
Un groupe de miliciens Mobondo lourdement armés a mené une incursion meurtrière. Le bilan provisoire fait état des 13 civils froidement égorgés à la machette par ces insurgés.
Après avoir été alertés, les forces armées de la République ont mené une opération d'intervention. Le capitaine Mwalushai.
Les forces armées de la République démocratique du Congo sont rapidement intervenues, neutralisant 5 assaillants et récupérant des armes de guerre ainsi qu'un lot de machettes. Lors de ces affrontements, un soldat congolais a été mortellement touché par balle.
Pour l'armée, ces nouvelles violences des miliciens témoignent leur détermination à continuer avec leur sale besogne, malgré les initiatives du gouvernement congolais en faveur de la restauration de la paix au Grand Bandundu. Toutefois, les FRDC se disent aussi déterminés à poursuivre ces miliciens jusqu'à leur dernier retranchement. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Par ailleurs, le président de la coordination de la société civile de Walikale plaide pour l'assistance de la population de cette entité, aussi bien celle restée sur place que des déplacés se trouvant à Kisangani. Ce plaidoyer est motivé par des conditions tant sécuritaires qu'humanitaires qu'il qualifie des calamiteuses. Fiston Misona, président de cette structure citoyenne, demande également aux autorités compétentes de la Tchopo d'identifier les déplacés afin de les assister et de les sécuriser, car nombreux sont ceux-là qui seraient victimes des tracasseries. Fiston Misona est au micro de Jacques Mkonkole.
Les arrestations arbitraires, il y a également la précarité sur le plan de la prise en charge de tous ces mondes-là. Les enfants qui seraient avec leurs parents dans des zones de déplacement n'étudient pas et d'autres restent galeries. Vu cet état des choses, nous demandons au gouvernement congolais, avec ses partenaires, de venir en aide à cette population victime des affres de la guerre dans la province du Nord-Kivu, en général, en particulier dans les territoires de Walikale. Que les services de sécurité et aussi humanitaire de Walikale vers Kisangani, ceux-là qui seraient à Kisangani puissent être bien sécurisés, identifiés, afin de voir comment est-ce que cette population peut trouver de l'assistance quant à ça. C'est pourquoi nous, en tant que société civile, actuellement dans la province de la Tchopo, nous sollicitons au gouvernement provincial de la Tchopo de faire dans l'urgence, si possible, de voir comment est-ce que cette population peut trouver de l'assistance quant à ça. Mais également de bien sécuriser cette population, car nous sommes tous Congolais et nous avons le droit de la protection en tant que Congolais dans notre pays.
Signalons que beaucoup de déplacés en provenance de Walikale sont arrivés à Kisangani depuis 2 semaines, fuyant les atrocités qui seraient commises par les rebelles du M23 dans leur entité. Cette information en bref, au nord Kivu, la situation ce mercredi au chef-lieu du territoire de Walikale est qualifiée de confuse par les acteurs locaux. Selon ses sources, c'est des crépitements d'armes lourdes et légères sont entendus depuis le matin dans les villages Ngora, Wenga et Mutakato sur l'axe Walikale-Goma. Cependant, nos sources ne fournissent aucun détail sur la cause. Pendant ce temps, la société civile de Walikale déplore la coupure depuis vendredi 28 mars des communications téléphoniques au chef-lieu du territoire. Pour cette source, après une attaque des drones militaires des FARDC sur Walikale, les rebelles auraient débranché toutes les cabines des compagnies de téléphonie mobile. En outre, ces sources ajoutent que les éléments M23 AFC ne seraient pas visibles dans plusieurs coins de Walikale centre ces mercredis. Nord Kivu toujours, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation demande au gouverneur de cette province de rapporter la circulaire en rapport avec la mise en congé technique de tous les agents et cadres de l'administration publique au Nord Kivu. Cette instruction est contenue dans un message officiel rendu public mardi soir, un jour après la prise de la dite mesure. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, instruit le gouverneur de rapporter cette décision pour les mêmes motifs évoqués et en outre de faire un état des lieux de la situation depuis sa prise de fonction. Rappelons que dans cette circulaire signée lundi 31 mars, le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Évariste Somukakule, a mis en congé technique tous les agents et cadres des services publics de la province qui n'avaient pas encore répondu présent à Beni, chef-lieu provisoire de la province. Cette mesure a suscité beaucoup des réactions. Et au sud Kivu voisin, la population de Nyantende dans le territoire de Kabare s'est réveillée dans un climat plus ou moins paisible après les violents combats de la veille qui ont causé 4 morts dont 2 civils. Par contre, à Nyangezi centre, les habitants sont restés cachés dans leurs maisons. À la suite, bien sûr, des bruits de bombes entendus depuis le matin de ce mercredi. Les détails avec Rachel Kessembango.
Si la tension a baissé ce matin à Nyakabongola dans le groupement de Modusa à Nyantende, le groupement voisin de Karango-Nyengezi, à moins de 20 km plus au sud, s'est réveillé sous des détonations des bombes. Nos sources à Nyantende renseignent que 4 personnes ont succombé hier lors des affrontements qui ont opposé les Wazalendo au M23. Parmi les victimes, l'on dénombre 2 civils dont les corps ont été récupérés et enterrés hier même dans leur concession familiale. Les 2 autres corps des belligérants traînés toujours dans la brousse aux alentours de la route nationale numéro 5 entre Bukavu et Uvira en passant par Nyangezi et les escarpements de Ngomo. Par ailleurs, les habitants de Nyangezi centre n'y sont pas sortis de leur maison à cause des bombardements qui se sont intensifiés. Une partie de la population vit en déplacement depuis une semaine, mais les affrontements d'hier ont poussé d'autres personnes encore à abandonner massivement le centre commercial de Mounia. Des corps des victimes sont aperçues sur la route, indique un habitant qui, par mesure de prudence, a préféré s'enfermer dans sa maison depuis maintenant 2 jours.
Merci à vous, Rachel Kessi. L'actualité, c'est aussi la coopération militaire entre la RDC et le Malawi. Les ministres des Défenses de ces deux pays ont convenu depuis lundi d'initier des échanges stratégiques et techniques entre les forces armées de leurs pays respectifs. Le vice-premier ministre congolais de la Défense, Guy Kabombo Madiamvita, et son homologue malawite, Monica Changanamuno, ont levé cette option au cours d'un échange tenu à Lilongwe. Les explications avec vous, Blaise Ndongala Mayanda.
C'est à l'issue des échanges entre ces deux personnalités que Kinshasa et Lilongwe ont décidé d'écrire une nouvelle page de leur partenariat militaire. Avec cette initiative, a expliqué le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, la RDC pourrait intégrer les nouveaux axes de collaboration tels que l'échange d'expériences dans les domaines militaires, la logistique, l'organisation des entraînements conjoints, ainsi que l'assistance mutuelle en cas d'agression. Face à la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo, les renforts forcément de la coopération militaire bilatérale avec les Malawi est un impératif dans la formation et les échanges stratégiques entre ces deux pays. Par la même occasion, Guy Kabombo Modiamvita a présenté au nom du commandant suprême des FARDC et au nom de la première ministre Judith Suminwa les condoléances du gouvernement congolais au Malawi et aux familles des militaires qui sont tombés sur les champs de bataille pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la RDC et de la sécurité des Congolais. Le Malawi a toujours témoigné d'un soutien militaire à la RDC. Il a récemment manifesté cette volonté avec l'envoi de ses troupes dans le cadre de la mission de la communauté de développement d'Afrique australe en RDC.
Comme dit au sommaire, le président de la République a nommé mardi par ordonnance présidentielle 2500 nouveaux magistrats. Il s'agit du dernier lot parmi les 5000 magistrats recrutés en 2022. En 2023, il y a eu un premier lot de 2500 nommés et affectés. Ceux qui viennent d'être nommés attendaient depuis 2024. Ces nominations interviennent aujourd'hui après les nombreuses pressions et manifestations de ces magistrats qui accusaient les conseils supérieurs de la magistrature des bradages de leurs dossiers. C'est un motif de satisfaction et de joie dans les rangs des magistrats à travers leurs syndicats, comme nous l'indique ici Jeff Ngoy.
L'intersyndicale des magistrats de la RDC pense que ces nouvelles nominations viennent combler la carence constatée dans nombreux tribunaux et décriée par les organisations de la société civile. Le président de l'intersyndicale, Gaël Yombo-Wété.
C'est avec volupté que l'intersyndicale des magistrats accueille la nomination de magistrats récemment nommés par le président de la République. Cela traduit la vision du magistrat suprême et chef de l'État de pouvoir rendre effectif et efficient l'instauration de l'état de droit sur toute l'étendue de la RDC. Vous savez, nous ne pouvons pas parler de la justice, nous ne pouvons pas parler de l'instauration de l'état de droit sans pour autant qu'il y ait des animateurs qui puissent l'accompagner. Raison pour laquelle nous estimons que ce lot important de magistrats récemment nommés vient renforcer l'effectif du pouvoir judiciaire. Nous estimons que le Conseil supérieur de la magistrature, à travers son organe de gestion, qui est le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, va déployer ses magistrats au niveau de différentes provinces.
Selon le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, les prochaines étapes concernent la formation pour 3 mois de ces magistrats à Kinshasa, puis leur déploiement. Pour cela, le CSM dit attendre des fonds nécessaires à ces deux préalables.
Jeff Ngoy. 3 Américains qui étaient condamnés à mort au procès de la tentative de coup d'État manquée le 19 mai 2024 à Kinshasa-Gombe bénéficient de la grâce présidentielle depuis mardi. Il s'agit de Benjamin Zalman, Taylor Thompson et Marcel Malanga, fils de Christian Malanga, chef de la bande décédée. Ils sont graciés après la commutation de leur peine. Mais pourquoi seulement ces 3 Américains et non pas les autres condamnés comme eux dans ces procès? Selon l'un de leurs avocats, cela relève du pouvoir discrétionnaire et absolu du président de la République et c'est conforme à la Constitution. On écoute Maître Richard Bondo au micro de Jeff Ngoy.
L'article 87 de la Constitution de la République confère au président le pouvoir de gracier. Mais cette grâce présidentielle a 2 formes. La principale, c'est la remise de peine. Là, le président vous pardonne purement et simplement. La deuxième, c'est la commutation ou la réduction des peines. C'est le cas ici où la peine capitale est commuée en servitude pénale principale, à perpétuité. Pourquoi? Parce que l'article 6 du code pénal est clair. Le condamné à mort est exécuté suivant le mode déterminé par le président de la République, qui détient en même temps le pouvoir exclusif d'accorder la grâce aux condamnés. Nous saluons cette grâce et espérons que, avec le temps, mon client Zalman et ses compatriotes pourront regagner les États-Unis.
Notons qu'un prévenu canadien et le belge Jean-Jacques Wundo bénéficièrent d'une libération conditionnelle pour des raisons humanitaires. En plus des Congolais condamnés tous à la peine capitale, au premier comme au second degré, ne sont pas du moins pour l'instant concernés par cette grâce présidentielle. Leurs avocats disent espérer que la même mesure leur sera aussi appliquée. Un mot sur cette affaire de la mort du policier des roulages décédé lundi à Kinshasa. La première ministre exprime son profond regret à la suite de la disparition d'un homme dévoué à servir notre pays, note-t-elle. Dans un communiqué de son cabinet signé hier mardi, Judith Suminwa rassure l'opinion publique que la justice militaire s'est déjà saisie d'office et une enquête est ouverte pour que toute la lumière soit faite autour des circonstances du décès. Elle appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la spéculation autour du décès du regretté brigadier Fiston Kabeya. Quelques heures avant, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, s'est saisi de l'affaire et a instruit l'auditeur général d'engager des poursuites en flagrance contre les auteurs de cette atrocité. Parlons des infrastructures routières dans la commune de Lemba, ici à Kinshasa. Les routes principales se dégradent. De la foire internationale de Kinshasa, en passant par Super Lemba, sous-région jusqu'au rond-point terminus, de nombreux nids de poules sont visibles. La situation est à la base d'importants embouteillages. Les habitants s'en plaignent. Nasia Tambo nous décrit la situation dans ce reportage.
comme dans plusieurs coins de Kinshasa, dans la commune de Lemba, les routes principales sont devenues impraticables. Les conducteurs de véhicules et motos s'en plaignent.
On a des problèmes avec nos véhicules, des pneus, d'autres matériels dans les véhicules stables. Quand vous quittez Limité pour atteindre Lemba vers 16e région, c'est pratiquement impraticable.
Jusqu'à partir des premières portes, il y a beaucoup de trous là-bas. Si tu arrives encore sur bypass, c'est plus grave encore. Nous demandons vraiment à notre gouvernement de réagir le plus vite parce que, en tout cas, ça ne va pas.
Les plaintes viennent aussi des habitants. Bébé Manzila et Rose Mounungu expliquent leurs difficultés pour se déplacer.
Nous avons vraiment des difficultés. Tu peux prendre une heure du temps pour quitter Lemba Foire et arriver à Super Lemba.
Partout, il y a des trous.
Et bourgmestre de Lemba, Jean-Serge Foba, affirme mener un plaidoyer justement pour la réhabilitation des routes.
Nous continuons de plaider pour qu'il y ait plus de kilomètres de construits dans notre commune de Lemba, pour que le gouverneur puisse nous aider avec la construction des routes.
Les habitants espèrent en tout cas une solution rapide pour mettre fin à leur calvaire.
Actualité internationale.
Dans le Cameroun anglophone, le droit de passage est un fardeau supplémentaire pour les familles endeuillées. C'est l'une des réalités de la crise dans les deux régions anglophones du Cameroun. Dans les territoires dans lesquels les groupes armés sont actifs, les habitants ne peuvent pas enterrer leurs défunts sans payer un droit de passage, notamment à Boua. Un fardeau supplémentaire que les familles tentent de s'acquitter tant bien que mal pour respecter les traditions.
L'invité.
Près de 500 personnes ont été reçues le 27 et le 28 mars dernier au Centre Neuropsychopathologie CNPP Inukin. 5 ont été retenues. C'est le bilan que dresse le docteur Daniel Okitundu, médecin directeur du CNPP Inukin, dans cette interview accordée à Radio Kapi. Les troubles du développement du cerveau, séquelles d'accidents vasculaires au niveau du cerveau, sont les pathologies les plus rencontrées au cours de ces consultations gratuites. Docteur Okitundu Loua Daniel s'entretient avec Rachel Kessé.
Docteur Okitundu, bonjour.
Bonjour.
Vous avez organisé des consultations gratuites le 27 et les 28 mars dernier. Quel bilan faire de ces consultations?
Nous avons un bilan qui nous réjouit parce que le 27, nous avons reçu en consultation 42 malades. Il y a des malades qui étaient impatients, qui sont rentrés. Mais le 28, nous avons reçu 454 malades que nous avons réellement consulté et nous avons eu à admettre en soins intensifs une patiente le 27 et puis le 28. Nous avons hospitalisé dans le service des urgences 4 patients.
Quelles sont les maladies que vous avez le plus rencontrées pendant ces consultations?
Du côté des enfants, c'est ce qu'on appelle maladie du développement du cerveau, les troubles neurodéveloppementaux, parmi lesquels vous avez les enfants avec autisme. Et puis on a le cas d'épilepsie qui concernait et les enfants et les adultes. Et puis toutes sortes de paralysies pour lesquelles les gens sont venus consulter.
Ces consultations gratuites ont fait le buzz sur les réseaux sociaux le week-end dernier. Est-ce que ce buzz a servi aux intérêts du CNPP d'une certaine manière?
Oui, le premier bénéfice pour nous, c'était de faire connaître le CNPP comme une institution de soins de santé du cerveau qui est restée depuis plusieurs années mal connue de la population. Le second bénéfice, c'est nous avons encore une fois confirmé avoir ce qui circule dans les réseaux sociaux, que pour le commun des mortels, le CNPP, c'est pour la folie. Et c'est une information qui nous permet de continuer à informer la population pour dire que ce n'est pas seulement un problème de fou, mais le CNPP, c'est la santé mentale. Le CNPP s'occupe de ça. Et c'est comme ça que nous avons des psychologues et cliniciens qui sont là pour recevoir toutes les personnes qui ont des difficultés dans le fonctionnement émotionnel, dans le comportement, sans qu'ils aient nécessairement une maladie mentale ou une maladie neurologique caractérisée.
Quel message lancez-vous à la population pour garder une bonne santé mentale?
Ça, c'est une très bonne question. 6 domaines. Premier domaine, le sommeil. Il faut bien dormir et dormir suffisamment, sans bruit, sans lumière. Deuxième domaine, c'est le domaine de l'alimentation. Il faut avoir une alimentation équilibrée, manger de façon régulière aux mêmes heures. il faut éviter l'excès de la consommation du sucre, comme l'excès de la consommation des graisses animales, ce n'est pas bon pour le cerveau. Il faut éviter un excès de poids, tout comme il faut éviter la malnutrition. Troisième domaine, c'est la sexualité. Il faudrait avoir une sexualité responsable. C'est un domaine où on peut avoir beaucoup de stress. Si on a trop d'engagement, si ce n'est pas responsable, on peut contacter des maladies, on peut avoir beaucoup de problèmes. À part ça, il y a la pratique de sport, activité physique et loisirs. Un autre domaine, c'est celui de la consommation de substances psychoactives. Pour mieux comprendre, on parle de concept ATOD, c'est-à-dire alcool, tabac et autres drogues. Si vous abusez de la consommation de l'alcool, la cigarette, n'en parlons même plus, elle n'a rien à faire avec notre corps. Et puis il y a autres drogues ici chez nous. La drogue la plus courante, c'est le chanvre. Très dangereux pour le cerveau, pour la santé mentale. Le dernier domaine, c'est celui des soins de santé. Il faudrait noter que tout problème que nous avons se répercute sur notre cerveau. Et quand on est malade, il faut avoir des soins convenables et à temps, et chez un bon médecin ou dans un bon hôpital, pour éviter que les choses s'aggravent autrement. Le médicament contre la malaria cérébrale, c'est gratuit. Contre la tuberculose, contre la lèpre, c'est gratuit. Il n'y a rien de gratuit pour le médicament qu'on doit utiliser contre les maladies mentales. Et je pense que c'est une question de droit de l'homme pour laquelle nous demandons que le gouvernement de la République ait un regard nouveau.
Docteur Okitundu, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Notre invité répond aux questions de Rachel Kessé. C'est la fin de ce journal coordonné par Élisée Chikota et supervisé par Martin Sebujangwe. Polydor Basonga a assuré la mise en onde et grâce à Mzati à la présentation. Merci.